Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est l'apocalypse. L'expression fait aujourd'hui partie du langage courant, une expression qu'a employée récemment Donald Trump à l'occasion du sommet mondial de Davos, moquant Greta Thunberg, cette jeune activiste pour le climat, et les prophètes qui annoncent l'apocalypse, je cite. Des moqueries amères qui ne sont pas du goût de tous, mais qui montrent que si l'expression est forte, son sens aujourd'hui reste incomplet. C'est en tous les cas ce que l'on comprend de l'ouvrage de mon invité de ce matin, un livre pour nous aider à entrer dans la réalité de l'apocalypse, qui n'en déplaise à Donald Trump, se produira elle, quoi qu'en pense le président de la République de la plus grande puissance du monde. Comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. En ce lundi matin, on prend de la hauteur, comme on essaye en général tous les lundis, par une émission qui concerne la vie spirituelle. Nous sommes avec Alain Quilici, vous êtes prêtre, religieux dominicain, et donc auteur de cet ouvrage, Le ciel est tout proche, 15 clés pour comprendre le livre de l'Apocalypse, paru aux éditions Arthège. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Alors vous êtes un multi-récidiviste, si je puis me permettre cette expression, parce que vous avez écrit de nombreux ouvrages. On pourra peut-être en citer d'autres au long de cette émission. Vous êtes à Toulouse, me disiez-vous, depuis fort longtemps, depuis la fin des années 60. Voilà, vous faites partie des piliers des Dominicains. Et vous avez été aussi donc animateur d'émissions de radio et de télévision, donc vous êtes coutumier de l'exercice. Vous venez donc d'écrire ce livre sur le livre de l'Apocalypse. Ma première question toute simple fera écho aux mots que vous mettez en préambule de l'ouvrage. Le ciel est tout proche, qui est donc aussi le titre de votre livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, Alain Quilici?
Alors ce livre est le fruit d'un long travail depuis des années consacré à des sessions, des retraites sur le thème de l'Apocalypse. Comme l'Apocalypse est un livre très difficile, on peut dire que personne n'a lu, donc tout le monde a une idée, y compris, vous le disiez, Monsieur Trump, c'est-à-dire qu'on connaît le mot Apocalypse, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça m'a paru intéressant d'en faire une lecture. Donc j'ai fait de très nombreuses sessions dans différents groupes à travers la France, en lisant systématiquement l'Apocalypse du début jusqu'à la fin, pour essayer d'en comprendre le sens. Et puis, maintenant que je suis à la retraite, je me suis dit, après tout, pourquoi pas noter ces choses-là. Et puis, je les ai envoyées à un éditeur, ça lui a plu. Et voilà comment paraît ce petit livre.
Alors, Alain Quilici, en introduction et peut-être en regard du petit mot que je faisais, en introduction de cette émission et en regard du petit mot que je faisais au début de l'émission, c'est vrai que ce titre et puis ce mot de préambule, Le ciel est tout proche, c'est tout sauf comme cela. Que l'on imagine l'Apocalypse, est-ce la première chose à préciser au début de cette émission?
Exactement. Quand on dit Apocalypse, on pense catastrophe. Donc dans le livre, il y a un chapitre sur les catastrophes, parce qu'effectivement, il y a des cataclysmes dans l'Apocalypse. Il faudra expliquer d'ailleurs ce que ça signifie. Mais l'Apocalypse est un livre positif. Ce n'est pas du tout un livre négatif. Si on peut faire une présentation générale du livre de l'Apocalypse, on peut dire, comme d'ailleurs des pères de l'Église l'ont dit, que c'est un cinquième évangile. Autrement dit, le message est le même que le message de l'Évangile, mais dit à sa façon, à une façon imagée, en utilisant des images qui, pour nous aujourd'hui, ne sont pas très parlantes, mais qui, pour les contemporains, évoquaient quelque chose.
Est-ce que vous pouvez dire quelques mots aussi en introduction de son auteur et de la manière dont il a peut-être reçu ce livre? Qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse? Est-ce qu'il l'a écrit comme étant le fruit de son imagination, ou est-ce qu'en fait c'est des révélations divines ce dont on va parler?
Voilà, alors l'auteur se nomme lui-même, il dit « moi, Jean ». Donc il s'appelle Jean. Pour ça, on appelle l'Apocalypse le livre de l'Apocalypse de Jean. Alors certains disent de Saint Jean. Alors rien n'est moins sûr. On ne dit pas que c'est Saint Jean. D'abord, le fils de Zébédée, le frère de Jacques.
Donc Jean étant un des quatre évangélistes.
C'est... Alors justement, il y a un problème aussi là, c'est que peut-être que l'évangéliste n'est pas aussi le fils de Zébédée. Donc le nom de Jean est peut-être un nom répandu. celui que Jésus aimait, qui n'était pas forcément parmi les douze, enfin tout ça c'est un petit peu compliqué. Et donc l'auteur de l'Apocalypse se nomme Jean. Et ce qui est intéressant, je le dis dès le départ, c'est qu'il se nomme quatre fois. Alors tout à l'heure, nous parlerons des chiffres, j'espère, et vous verrez que ce n'est pas pour rien qu'il se nomme quatre fois. Mais trois fois au début, une fois à la fin.
Mais alors comment est-ce qu'il l'a écrit ? Une fois de plus, je repose ma question, est-ce que c'est le fruit de son imagination ou est-ce qu'en fait ce livre qu'on va parcourir et qu'on va citer, c'est comme une révélation divine ?
Voilà, ce sont des révélations, exactement. Ce sont des visions qu'il a eues, qui lui ont été transmises et qu'il transcrit par écrit. Alors maintenant, comment se passe une vision ? Eh bien, il faut interroger les visionnaires, c'est toujours pareil. Ils voient des choses, ils nous les transmettent, et nous on fait ce qu'on peut pour les comprendre. Alors vous me parliez de la date aussi, la date de l'Apocalypse. Donc évidemment il y a un débat entre les experts. Les plus optimistes dateraient l'Apocalypse du milieu du 1er siècle, dans les années 60-70, et les plus réalistes, et noterait de la fin du 1er siècle, 95. Donc il y a une sorte d'unanimité qui se fait là-dessus. Donc c'est un livre qui est de la fin du 1er siècle. Donc on voit qu'à ce moment-là, ça s'adresse à des chrétiens en général d'ailleurs persécutés, et qui ont besoin de consolation. Et c'est un livre de consolation.
Alors vous dites que ce livre donc fait partie du canon de l'Église, des textes qui ont été retenus par l'Église. Vous dites aussi que ce livre est tout à la fois un livre de spiritualité, de théologie, de dévotion, enfin qu'il y a de multiples manières d'entrer dans cet ouvrage. Vous teniez à faire au début de cette émission quelques précisions sur les chiffres. Alors il y a beaucoup de chiffres dans le livre de l'Apocalypse. Ça peut en fasciner certains qui peuvent y voir là une sorte de gnose dans laquelle il faudrait rentrer et des choses fort mystérieuses à comprendre. Ces chiffres, ce sont les chiffres 3, 4, 7, 12, 120, 144 000 aussi élus à un moment. Alain Kilissi, ces chiffres sont-ils importants ?
Alors c'est un des... Je ne sais pas s'il faut dire un truc, un mystère de l'Apocalypse, c'est en effet la révélation joue beaucoup sur les chiffres. Et il est important d'en connaître la signification pour pouvoir comprendre le texte. Il y a d'abord le chiffre 3. Non seulement il est dit parfois il y a trois choses, mais tout ce qui est ternaire évoque le ciel. Alors il y a ce qu'on appelle le trisagion, le trois fois saint, 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 que nous redisons à la messe actuellement, la Trinité sainte, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais on voit aussi dans le texte, c'est ça qu'il faut observer quand on fait une lecture attentive, que souvent, le Christ, par exemple, on dit « à toi, louange, honneur et gloire », trois choses. Et parfois, on dit sept choses, honneur, louange et gloire, prospérité, enfin, toutes sortes de choses qui se suivent. Donc, chaque fois qu'il y a trois, une petite lumière s'allume.
Ça parle de Dieu.
Ça parle du ciel. Ça parle du ciel.
Du ciel, voilà. Pardon.
Et tout ce qui est quatre, au contraire, parle de la terre. Donc quatre, c'est les quatre vents, les quatre points cardinaux.
Les quatre saisons, vous dites aussi.
Les quatre saisons, les quatre membres, deux pieds, deux jambes.
Les quatre coins de la maison, vous dites
les
aussi.
Les quatre coins de la maison, voilà. C'est très curieux de voir ça, et très systématiquement, quand on met quatre, c'est qu'on veut évoquer quelque chose de la terre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Jean se nomme quatre fois, parce que peut-être que dans son écriture, il s'était nommé trois fois au début, et il se dit, mais je ne suis pas un personnage divin, il faut absolument une quatrième fois. Alors peut-être que c'est plusieurs siècles après, on peut toujours interpréter. Mais en tous les cas, on remarque cette chose-là de façon très, très, très présente.
On ne peut pas donner le détail de tous les chiffres, on renverra à votre ouvrage. Est-ce que
attendez,
vous pouvez vous arrêter au moins sur le chiffre 12 ?
Non, attendez, d'abord, permettez-moi. Le chiffre 3 et 4, ça se multiplie, et ça s'ajoute. 3 plus 4, ça fait 7. Or, l'Apocalypse est toute centrée sur des septenaires, des séries de 7. Et dans l'Apocalypse, on trouve des mots qui ne sont utilisés que 7 fois. Alors, qu'est-ce que veut dire le 7 ? Eh bien, le 7, vous le comprenez immédiatement, si le 3 est le ciel et si le 4 est la terre, le 7, c'est l'union de la ciel, du ciel et de la terre. Par conséquent, c'est le chiffre de l'incarnation. Donc, c'est très important. Dans l'Apocalypse, très souvent, il y a des mots, je les ai notés d'ailleurs, que vous le trouverez dans ce livre, qui sont nommés sept fois. Et ce n'est pas un hasard, C'est pas pour rien qu'il y a des fois des choses qui sont nommées 7 fois.
Alors 12, 4 fois 3, 12.
Alors 12, c'est 3 fois 4, 12. Un chiffre traditionnel, les 12 fils de Jacob, les 12 apôtres. Donc voilà, c'est un chiffre traditionnel. Le 10 indique le grand nombre. 10, 100, 1000, 1 millier, une myriade. Quand il y a 10, c'est un chiffre énorme. Voilà. Et puis alors, il y a des chiffres maléfiques. Par exemple, 666, qui est le chiffre de la bête. Et ça, j'ai marqué dans l'Apocalypse, évidemment. La bête, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu, celui qui va s'opposer au Christ. Alors, il a un chiffre. Parce que, comme vous le savez, en hébreu, les lettres ont une valeur de chiffre. Aleph 1, Beth 2, Gimel 3, etc. Donc, quand vous avez votre nom, on peut le transformer en chiffre. On va dire Emmanuel, E temps, M temps, et on peut soit les mettre l'un à côté de l'autre, soit les ajouter. Donc ça, c'est simple. De chiffrer son nom, c'est simple. Mais quand on a un chiffre et de trouver le nom que ça indique, ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Alain Kilissi, vous dites en introduction donc, de ce petit chapitre sur les chiffres et les nombres aussi que voilà, il faut pas non plus accorder, enfin faut pas commencer à faire des recherches ésotériques autour de ces chiffres. Vous en avez donné l'explication qu'on peut en donner, mais vous mentionnez aussi que les chiffres ont une portée universelle. On rentre et on comprend facilement des chiffres quand parfois on a du mal à se comprendre et que les langues communes n'existent pas. Il y a une autre réalité qui existe au long du livre de l'Apocalypse. Ce sont les anges. Les anges fascinent nos contemporains. Bien des spiritualités aujourd'hui parlent des anges. Peut-être parfois même plus on en parle dans ces spiritualités-là, décidément j'ai un peu de mal ce matin, plus que dans l'Église. Des anges, il y en a beaucoup, beaucoup dans le livre de l'Apocalypse. J'aimerais que vous commenciez par nous parler de celui qu'on appelle son ange. C'est un ange, semble-t-il, de première importance. Quel est cet ange, semble-t-il, pas comme les autres à l'intérieur du livre de l'Apocalypse, Alain Kilissi?
Oui, c'est très curieux qu'en effet, le Christ, quand il parle, parle à un moment de son ange. Donc il semble avoir un ange qui correspond à lui. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un ange, c'est une créature invisible. Le Créateur n'a pas créé que des choses visibles que nous voyons avec nos yeux. Il y a aussi toutes sortes de choses que nous ne voyons pas. Les anges font partie de ces réalités invisibles. Et ils sont une multitude. Et une chose curieuse de l'Apocalypse, d'ailleurs, c'est que le visionnaire voit des anges. C'est très contradictoire. Si l'ange est invisible, c'est une créature invisible, voir un ange, c'est très mystérieux. Qu'est-ce qu'il voit? Alors malheureusement, il ne décrit pas. Il semble que ce soit une évidence. Un ange, c'est un ange. Voilà. C'est une créature donc, qui est intermédiaire. L'ange est un intermédiaire entre Dieu et la terre, l'homme, celui auquel il s'adresse. Et quand Christ parle de son ange, eh bien, il manifeste par là sa façon de se manifester lui-même par cet intermédiaire. On voit à un moment un ange puissant, toujours les anges sont décrits comme puissants, qui se dressent dans le ciel, et on voit bien que c'est une allusion directe au Christ lui-même, au Christ ressuscité.
Alors à propos des anges, il y en a un moment il y en a 4, un autre moment il y en a 7, ça fait écho aussi au livre de Tobie, hein, les 7 anges qui se tiennent constamment en présence de la gloire de Dieu. Vous rappelez donc, ce sont les archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, en tout cas c'est les noms que l'Église aujourd'hui donne pour en nommer au moins 3. On parle aussi de Saint-Michel Archange, peut-être que vous y reviendrez. Je voulais que vous arrêtiez sur un autre ange, parce que le livre de l'Apocalypse, pour nous, c'est quand même la fin des temps. Et il y a un ange, semble-t-il, dont le travail est d'annoncer cette fin. Je crois que, je ne sais pas si c'est lui qui le dit ça, il n'y a plus de temps. Sa voix est comme la voix d'un lion. Parlez-nous de cet ange annonciateur.
Alors, dans l'Apocalypse, les anges sont toujours présentés comme étant des anges puissants, forts, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire par là, et qui ont une voix forte comme la voix d'un lion. C'est une image un peu traditionnelle pour dire qu'on a la voix forte. Ils tonnent, il faut les entendre. Et ils proclament des choses. Alors là, celui que vous citez, très important, en effet, dit qu'à un moment, eh bien, il n'y a plus de temps. Alors sur le temps, on peut réfléchir aussi sur le temps dans l'Apocalypse, c'est très intéressant. C'est-à-dire, au fond, il y aura une fin des temps, mais il y a aussi l'importance de vivre dans l'instant présent, l'instant dans lequel nous sommes. Et cet ange proclame, donc assez curieusement, « Il n'y a plus de temps », ce qui habituellement est traduit par « il n'y a plus de délai ». En français, on pourrait dire « il n'est plus temps ». C'est-à-dire « dépêchez-vous de vous convertir », ce que le Christ dit sans arrêt. « Dépêchez-vous de vous convertir, mon retour est proche. Il faut être prêt. Le voleur n'avertit pas quand il arrive. » Et pour ça que l'ange dit simplement « il n'est plus de temps », en grec marqué « il n'est plus de temps », on peut traduire par « il n'y a plus de délai ». Il n'est plus temps.
Alain Kilici, peut-être est-il bon de dire « le livre de l'Apocalypse », c'est donc un livre qui est donc dans les Écritures, qui est reconnu par le canon de l'Église. C'est une, semble-t-il, donc des visions qu'ont eu un certain Jean. Cette réalité est-elle vraie et concerne-t-elle tout le monde jusqu'à M. Donald Trump ? Parlez-nous à ce stade de l'émission de la réalité de ce livre de l'Apocalypse pour le monde entier et pour chacune de nos vies.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des visions. Le mot « apocalypse » lui-même mérite une explication. Il veut dire, c'est un mot grec qu'on a gardé en français, qui veut dire « révélation ». Donc ce sont des révélations. C'est tout le mystère des révélations, toute notre foi.
C'est pas aussi dévoilement, non ? C'est pas comme ça qu'on peut le traduire ?
On peut aussi dévoilement, si vous voulez. Oui, c'est ça, si vous voulez.
D'accord.
Révélation, oui. Donc ce sont des visions, ce ne sont pas des descriptions. Il ne faudrait pas prendre ce que rapporte l'Apocalypse comme étant des descriptions. Ce sont des visions. Il a une vision. Il voit des catastrophes. Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit un ange apparaître. Ce sont des visions un peu comme celles des prophètes. Les prophètes, alors en particulier deux prophètes très importants, qui est le prophète Daniel et le prophète Ézéchiel, qui ont beaucoup de visions aussi comme ça, et qu'il faut interpréter. Voilà.
Avant qu'on fasse une première pause musicale, j'aimerais qu'on a parlé de l'ange annonciateur qui, à sa manière, parle du temps, que vous nous disiez un petit peu dans quelle temporalité on est dans le livre de l'Apocalypse. Alors là, on peut être surpris à vous lire. On a peut-être, pas tous, mais parfois en tête, la fameuse phrase de d'un célèbre cinéaste, Woody Allen, qui dit « L'éternité, c'est long et surtout à la fin
». Oui.
Le temps, ça serait notre réalité à nous, et l'éternité serait plutôt à comprendre comme un instant. Expliquez-nous.
Voilà. En grec, il y a deux mots pour exprimer le temps. En français, nous n'avons qu'un seul mot, et qui est très équivoque, puisque ça peut être le temps météorologique ou bien le temps historique. En grec, il y a deux mots, dont un qui est bien connu en français, qui s'appelle chronos. Ça, c'est le temps qui passe. C'est le temps maudit. C'est le temps auquel l'homme est condamné après s'être séparé de Dieu. C'est un temps infini, il nous fait vieillir, il n'en finit pas de passer, au contraire, il passe trop vite. C'est le temps historique, voilà, chronos. Voilà. Et puis, il y a l'instant. Alors, l'instant de votre naissance, l'instant de votre mort, ce qui pour nous est évidemment capital, ce qui compte pour moi, c'est ça, cet instant-là. Mais pensez quand il s'agit du Christ, l'instant de la naissance du Christ. À un moment, le ciel et la terre se sont touchés dans la naissance de Jésus à Bethléem, etc. L'instant de la mort du Christ est très mystérieux. À un moment, sur la croix, celui qui est Dieu et homme meurt. C'est un instant unique. C'est pour ça que l'Église a tant de vénération pour ce moment-là. Donc, l'éternité, si on l'imagine comme un temps historique interminable, c'est désespérant. D'où la plaisanterie de Woody Allen. C'est désespérant. Vous imaginez être pour l'éternité à attendre on ne sait pas quoi. Tandis que l'éternité, non, c'est un instant intense. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer.
À propos du temps, vous avez aussi cette phrase « L'Apocalypse permet à chacun de prendre conscience qu'il a une histoire, que cette histoire est apparemment insignifiante, qu'elle s'est déroulée sans qu'il puisse vraiment intervenir, qu'elle a été marquée par une succession d'instants décisifs et insaisissables pour elle, et donc que chaque histoire est sainte et chaque instant l'est aussi. » On fait une première pause et puis on vous retrouve Alain Kilici pour ce livre sur l'Apocalypse, « Le ciel est tout proche » paru aux éditions Arthège.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le comprendre le livre de l'Apocalypse, pardon, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour rappel, nous sommes avec Alain Quilici, prêtre dominicain, actuellement au couvent de Toulouse et auteur donc de cet ouvrage, Le ciel est tout proche, 15 clés pour comprendre le livre de l'Apocalypse paru aux éditions Arthège. Avant qu'on se plonge dans les 7 béatitudes du livre de l'Apocalypse, les béatitudes, ça parlera peut-être aux auditeurs, hein, dans l'évangile selon saint Matthieu, il y en a 9, dans l'évangile selon saint Luc, il y en a 5, même si pour chacun les choses se compliquent après, et vous nous dites qu'il y a aussi des béatitudes dans le livre de l'Apocalypse, et on va en parler. Avant ça, vous vouliez nous parler des livres, il vous semblait important de préciser qu'il y a des livres à l'intérieur du livre, c'est-à-dire le millefeuille de l'Apocalypse. Avant que je vous donne la parole, je voulais citer cette phrase que vous avez au début de ce chapitre sur les livres. Vous dites « La parole de Dieu est une, elle est unique, Dieu n'a qu'une parole ». C'est aussi comme ça, évidemment, qu'il faut lire les Écritures et aussi le livre de l'Apocalypse. Dieu ne parle pas en l'air, il ne se reprend pas. Les livres, pourquoi est-ce important, Alain Quilici, de parler de ces livres à l'intérieur du livre de l'Apocalypse ?
Autant les évangiles sont une parole, Jésus dit « Allez, annoncer, parler », c'est une parole, et Jésus envoie ses messagers parler. Autant dans l'Apocalypse, on ne dit pas parler, on dit écrire. Écrit, note. Le visionnaire est invité à écrire. Et de temps en temps, on lui dit, ça ne l'écris pas, ou tu l'écriras plus tard. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est un livre dès le départ. On peut dire que l'Évangile, c'est une parole qui a été écrite pour qu'elle ne se perde pas. Tandis qu'Apocalypse, c'est un livre. Or, dans ce livre, il y a plusieurs livres. Un en particulier, très intéressant, sur lequel je voudrais dire un mot. Le visionnaire voit, tout d'un coup, dans celui qui siège sur le trône, une vision dans le ciel, qu'il tient à la main droite, donc la main qui commande.
Le livre des sept sceaux, c'est ça ?
Un petit livre roulé. Donc ce n'est pas un livre broché, c'est un livre roulé. Et il est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Autrement dit, il y a une partie qu'on peut lire de l'extérieur, et une autre partie mystérieuse que l'on ne voit pas. D'autant plus que ce livre est scellé. Il y a 7 sceaux qui empêchent de l'ouvrir. Alors je vois dans cette image-là, une image très parlante pour nous. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut être la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. La Bible est un livre qui est sur le marché, sur la place publique, on peut lire. Mais le message de la Bible, le contenu de la Bible, le sens de la parole de Dieu, voilà qu'il faut, il faut une révélation. Il faut que quelqu'un vous l'explique. De même, votre vie, la vie de chacun de nous. Chacun peut décrire la vie de l'autre. Je vous vois, je vois comment vous êtes. Pour un peu renseigner qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez actuellement, ça c'est extérieur. Mais ce que vous vivez intérieurement, qui va le dire ? Qui va le révéler ? Il faut trouver quelqu'un. Alors le visionnaire est pris d'angoisse en se disant « Mais qui va ouvrir ce livre ?» Il cherche dans le ciel, est-ce que quelqu'un pourrait l'aider ? Il trouve personne sur terre, il n'y a pas de philosophe capable d'expliquer. Sous terre, il n'y a pas de mage qui puisse le révéler. Seul le Christ va pouvoir déceler le livre et en révéler le sens caché. Voilà pourquoi je voulais qu'on en parle.
Et ça faisait écho aussi au passage que je lisais avant la première pause musicale, laissant entendre que chacune de nos vies est sacrée. Voilà, seul le Christ aussi peut dérouler le fil intérieur de nos vies et la vérité sur nos vies et de ce que nous avons au fond de nos cœurs. J'aimerais que vous nous parliez de ces béatitudes. Alors les béatitudes, pour rappel, c'est donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers des évangiles, c'est en tout cas dans l'évangile selon saint Matthieu, ce passage très connu, où le Christ donne un certain nombre de béatitudes, disant heureux, heureux. Le pape François dit souvent que c'est la carte d'identité du chrétien. Vous vous dites que dans le livre de l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes qui sont données. Quelle courte présentation nous en feriez-vous avant qu'on en cite l'une ou l'autre ?
Alors, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre logique. Autant dans saint Matthieu, les béatitudes sont regroupées dans un... On appelle le chapitre 5, mais peu importe, c'est regroupé à un moment. Autant dans l'Apocalypse, il n'y a pas d'ordre. Tout d'un coup, éclate une béatitude. Heureux celui qui etc. Et chaque fois, c'est une sorte de flash lumineux qui vient éclairer dans une situation qui parfois est très sombre et très inquiétante. Et alors, c'est curieux, assez curieusement, on parlait tout à l'heure des chiffres, assez curieusement, dans l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes. Ce n'est pas un hasard. Je vous disais tout à l'heure que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'incarnation, le 3 céleste, le 4 terrestre, 7 béatitudes. Donc, c'est une manifestation de la situation de l'homme qui est appelé au bonheur, selon Dieu, bien sûr. Au bonheur selon le monde.
Une béatitude, on va en citer une première, donc qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Heureux les morts, je ne commence pas par la première. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, qu'ils reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Je cite celui-là parce que c'est vrai qu'on attribue souvent, on associe souvent le livre de l'Apocalypse avec les fins dernières, la fin du monde. Et donc, en général, dans les films qui ont ce titre de l'Apocalypse d'une manière ou d'une autre, il y a beaucoup de morts. Quel commentaire cela attirerait à l'Inquilici ? Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, qu'ils reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent.
Alors au moment de l'ouverture des sceaux qui décèlent ce livre roulé, le cinquième sceau, particulièrement important, montre une réalité qui sont les martyrs, qui sont sous l'autel et qui gémissent. Et ils gémissent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment ils ont pu être martyrisés comme ça à ce point, alors qu'ils annonçaient une bonne nouvelle.
Il faut rappeler que ce livre est écrit alors que les persécutions chrétiennes sont importantes dans l'Empire romain.
Et là encore, c'est très contemporain. Parce que même si nous, actuellement, ici, nous ne sommes pas trop persécutés, il y en a d'autres ailleurs qui dégustent. Voilà. Donc c'est un message très contemporain. Donc il faut savoir que dans la révélation chrétienne, il y a deux morts. La première mort, c'est la mort physique. On n'y échappe pas. Un jour ou l'autre, on mourra.
Tous,
sans exception. Voilà. Le seul qui en soit sorti, c'est Jésus le Seigneur. Autrement, on meurt. Donc, elle est inévitable. Mais c'est un passage. C'est un passage de la terre au ciel, précisément. Et le ciel est tout proche. Et puis, la seconde mort, celle-là est redoutable. Ça, c'est la mort éternelle. Mais celle-là, ce n'est pas un passage, elle est définitive. Mais elle est évitable. Autant la première est inévitable, autant la deuxième est évitable. Il faut se tourner vers le Seigneur. C'est lui qui l'annonce. Je vous annonce la vie et la vie en abondance, qui parle de la vie éternelle à longueur de prédication. Et alors, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, on trouve cette béatitude. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur maintenant, persécutés, exécutés, anéantis. Au lieu de leur dire, pauvres gens, comme on vous plaint, on dit non, heureux, reposez-vous. Maintenant, vous reposez. Attendez l'heure du réveil. Et lorsque vous réveillerez, alors vous entrerez dans la vie. Voilà.
Il y a une autre béatitude dont j'aimerais que vous nous parliez. Heureux et saint, celui qui participe à la première résurrection. Cela fait écho justement à ce que vous venez de dire.
Exactement.
S'il y a deux morts, il y aurait aussi deux vies d'une certaine manière.
Exactement.
Dont une qui commencerait dès ici-bas. Et vous utilisez même ce mot de régénérescence.
Oui.
C'est quoi cette première vie à laquelle on est appelé?
La première vie, c'est la vie que nous menons, c'est la vie naturelle.
Première résurrection.
Et la première résurrection, c'est celle qu'apporte le baptême, précisément. Saint Paul le dit, vous êtes ressuscité dans le Christ. Donc c'est une première résurrection, d'une certaine manière. C'est une résurrection spirituelle. Nous attendons une résurrection finale. De même que l'Église confesse que quand on meurt, on paraît devant Dieu, c'est une vie de l'âme, mais que nous attendons le retour du Christ et la résurrection finale. Donc on peut dire qu'il y a deux résurrections. La résurrection, la première résurrection, qui est celle dont nous bénéficions au jour de notre baptême, et la deuxième résurrection, c'est celle qui nous fera entrer dans la gloire de Dieu. Et celle-là nous échappe complètement.
Mais Alain Kilici, là aussi, si on s'arrête un petit peu dans notre propos, on entend que ce livre a donc été écrit suite à des visions qu'a eu un certain Jean, que c'était dans un temps bien particulier de la vie de l'Église, que si ce livre a de multiples images décrit des choses extrêmement fortes qui ont pu donner lieu donc à bien des œuvres artistiques et parfois même à des films, c'est qu'il s'agissait de réveiller. Or, aujourd'hui, dire heureux et saint celui qui participe à la première résurrection, ça peut faire un flop aussi parmi nos contemporains. Le livre de l'Apocalypse ne serait-il inadapté à notre temps, Alain Quilici ?
Je ne vois pas trop en quoi il serait inadapté, parce que...
Là où il était audible pour les premiers chrétiens, est-ce qu'aujourd'hui il est encore audible par...
Vous savez, ce que vous dites, on peut le dire de l'Évangile aussi. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que l'Évangile est adapté à notre époque ? Or, qu'est-ce que prêche l'Évangile ? L'Évangile prêche précisément une vie éternelle. Nous nous préparons à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas à cette vie éternelle dans le Christ... Eh bien, effectivement, alors ça devient une pratique. On pratique comme on pratiquerait autre chose. Tandis que toute la vie chrétienne, c'est une préparation à cette vie éternelle que nous confessons dans le credo. Donc l'Apocalypse ne dit pas autre chose. Il dit, dès maintenant, malgré la vie que vous menez, malgré la persécution, malgré vos ennuis, malgré la menace de mort qui peine sur vous, réjouissez-vous, car déjà vous êtes sauvés. Déjà vous êtes sauvés. Mais vous le serez complètement le jour où, comme le Christ... vous serez passé de la mort à la vie, que vous serez entré dans la plénitude de la vie. Donc le message de l'Apocalypse est tout à fait celui de l'Évangile.
Autre béatitude, Alain Quilici, heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Je répète, heureux oui. celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Comment faut-il comprendre cette béatitude ?
Toutes les béatitudes sont un peu mystérieuses quand même. Effectivement... aller nu, c'est-à-dire être limité à soi. Ça, c'est ce que dit le livre de la Genèse quand on dit qu'Adam et Ève prirent conscience qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils étaient limités à eux-mêmes. Finalement, ils n'étaient plus englobés dans la gloire de Dieu. Ils n'étaient plus qu'eux-mêmes, avec leur faiblesse et les atteintes du monde, la vulnérabilité. Voilà. Eh bien alors...
Vous dites un petit peu plus tôt aussi dans le livre que c'est à ce moment-là que l'homme est jeté dans le temps aussi.
Et c'est ça, oui.
Si on revient en arrière oui. et qu'on revient, on reparle du temps.
Oui, exactement.
Alors cette béatitude, comment est-ce qu'on peut...
C'est ça, je veux dire, heureux celui qui veille, bon, celui qui, comme le Christ le dit, veillez, attendez, mon retour est proche, et qui garde ses vêtements. Alors qu'est-ce que le vêtement ? C'est évidemment le vêtement baptismal. C'est le vêtement dont on est revêtu au jour du baptême. Vous avez revêtu le Christ. Vous n'êtes plus nu, c'est-à-dire vous n'êtes plus livré à vous-même. Vous êtes désormais vêtu par le Christ, habillé par le Christ. On dit habité par le Christ, mais habillé par le Christ aussi. Donc heureux celui qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Évidemment, les psychanalystes expliqueraient ça de façon très sexuelle, qui n'est absolument pas présent dans ce texte, mais qui est la limite. Aller nu, c'est-à-dire montrer sa faiblesse, sa vulnérabilité, et combien on peut être victime de toutes sortes de choses. Mais dans le Christ, vous êtes vainqueur.
La nudité ne manifeste que trop clairement la faiblesse et la vulnérabilité de l'homme. Expliquez-vous, si le Seigneur ne prenait soin de lui, l'homme mourrait de dénuement. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. Et puis on va vous retrouver pour continuer cette lecture indirecte du livre de l'Apocalypse à travers votre livre « Le ciel est tout proche, 15 clés pour comprendre le livre de l'Apocalypse » paru aux éditions Arthège.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, et j'aurais même pu dire comprendre l'Apocalypse tout court. Nous sommes, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, avec Alain Quilici, prêtre dominicain et auteur d'un ouvrage récemment paru, Le ciel est tout proche, paru aux éditions Artege. Alain Quilici, vous me disiez en préparant l'émission que vous étiez à Toulouse depuis 1966, vous êtes donc un des piliers de cette communauté toulousaine, voilà, le couvent de Toulouse, on sait qu'il a une place un peu particulière dans votre ordre. Vous avez fait quelques excursions aussi au couvent de Marseille, mais cela dit que vous avez une vie religieuse maintenant assez conséquente, quelques années derrière vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous plonger comme ça dans le livre de l'Apocalypse? Qu'est-ce que ça a apporté à l'homme de foi que vous êtes?
C'est un enrichissement de la foi. Dans la mesure où l'Apocalypse est, fait partie du canon des Écritures, c'est un livre qu'il faut lire comme on lit les Évangiles, comme on lit les Épîtres de saint Paul, ou comme on lit les Actes des Apôtres. Simplement, comme c'est écrit de façon très particulière, avec ces images qui puisent beaucoup dans les images des prophètes de l'Ancien Testament, évidemment, il faut décrypter ces images pour pouvoir en comprendre le sens, la signification et la richesse. Donc moi, ce que ça m'a apporté, c'est un éclairage sur la vie chrétienne tout à fait lumineux. Chaque époque a pensé que l'Apocalypse était écrite pour elle. Chacun, au début du 1er siècle, on voyait des persécutions. Et puis à mesure que le temps passait, il y avait toujours des persécutions. Et chacun a lu l'Apocalypse comme si ce livre venait d'être écrit pour eux. Et encore aujourd'hui, on est très tenté de voir dans le dragon, dans les deux bêtes qui se manifestent contre le Christ ressuscité, etc., contre l'Église en particulier, de voir des applications contemporaines. On pourrait dire c'est un tel. Alors pour nous, quand vous dites je ne suis pas tout jeune, j'ai traversé le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est quand même deux guerres mondiales.
Alors vous dites oui, en effet, que
c'est des génocides.
Les cités Satan et des bêtes, et que les bêtes, ce sont tous les tyrans de notre monde.
Tous les tyrans.
Et voire du XXe siècle.
Exactement. Et on peut donner des visages à toutes les époques. Alors à l'époque contemporaine, c'était les empereurs romains. Contemporaine de l'Apocalypse, c'est les empereurs romains. Aujourd'hui, je ne donnerai pas de nom. Mais enfin, au moins historique, quand on a vécu au temps d'un Hitler, ou un temps d'un Staline, ou d'un Pol Pot, ou d'un Mao, on sait ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de beaucoup d'imagination. Alors évidemment, l'Apocalypse ne les décrit pas, ce n'est pas eux dont on parle, hein, faisons pas d'erreur. Mais, bon,
Alain Kilici, il y a une question qui traverse votre livre et qui traverse le livre de l'Apocalypse, une question aujourd'hui qu'il est difficile d'entendre pour nos contemporains et parfois même pour nous chrétiens. Vous avez des phrases par moments un peu dures, un peu raides, j'ai envie de dire. Alors on imagine que c'est parce que le texte l'est aussi. Il y a dans la vie que l'on vit, enfin voilà, dans cette vie que l'on partage, qui est celle de chaque jour, en fait un enjeu de salut. Et rien ne serait tout à fait joué ou ne serait gagné. Expliquez-nous ça.
Oui, ben c'est...
Il peut y avoir une mauvaise conclusion à la vie d'un homme.
Oui.
Ce sont des choses qu'on entend rarement ou qu'on dit peu. Qu'est-ce que ça veut dire ?
On n'ose pas aujourd'hui. Mais l'Apocalypse est tout centré sur le, comme la Vergile d'ailleurs, sur le thème d'un jugement. À un moment, il y aura un jugement. Souvenez-vous, le chapitre 25 de saint Matthieu, hein, le jugement... avec le roi qui met à sa droite et à sa gauche, les uns sont sauvés, les autres sont condamnés. Donc nos contemporains n'aiment pas trop cette histoire de jugement. Le mot jugement, c'est crisis, crise. Crise, ça veut dire ça. À un moment, il y aura un jugement. Chacun sera récompensé selon ses œuvres, dit le livre de l'Apocalypse. Chacun selon ses œuvres. Donc tout ce que l'on fait aujourd'hui, il ne faut pas le voir de façon trop matérielle, mais on peut dire, est comptabilisé. C'est-à-dire, au fond, si on s'est occupé que de soi, et encore, ce n'est pas le pire, mais si on a torturé les autres, si on a détruit l'humanité, il faudra payer.
Donc on n'ira pas tous au paradis, comme le dit la chanson ?
Eh non, on n'ira pas tous au paradis, non.
Même si c'est la foi de l'Église, Alain qui dit si, non ? C'est-à-dire, on espère que tout le monde ira au paradis. L'Église ne dit pas qu'il y a quelqu'un en enfer, par exemple.
On sait qu'il y a des sauvés. Voilà, on sait qu'il y a des gens sauvés. On espère être du nombre des sauvés. Mais on sait aussi qu'il y a des condamnés. Dans l'Apocalypse, c'est décrit de façon très crue. On voit le gouffre qui s'ouvre, le puits de l'abîme, qui est fermé à clé, dans lequel est jeté le dragon, la bête, et tous ceux qui sont marqués par la bête. Parce qu'on n'a pas parlé de ça, il y a tellement de choses. La bête marque des gens. Elle les marque au front et aux mains. C'est-à-dire, on va vicier leurs pensées. Et ça, évidemment, on ne peut pas penser à ce qui se passe dans le matraquage actuel, et surtout pendant le XXe siècle. Et puis la main, c'est-à-dire, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Et bien, tous ceux qui ont suivi la bête, tous ceux qui ont préféré suivre le monde, et bien ceux-là, ils paieront les conséquences de leur comportement.
Alors, il y a deux femmes dans ce livre de l'Apocalypse qui sont comme deux symboles de cette... ces deux trajectoires qu'on peut prendre, deux extrêmes, une femme dans le ciel et une femme au contraire sur la terre. Alors la femme sur la terre, on peut dire que son image est peu glorieuse, hein. Elle se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs.
C'est horrible.
Et oui, c'est moins qu'on puisse dire. Et cette femme dans le ciel, elle, c'est une figure au contraire de, on va dire, de pureté, d'innocence. Lumière. Parlez-nous de ces deux figures.
Alors, dans l'ordre dans lequel c'est écrit dans l'Apocalypse, on commence par la femme dans le ciel. Et ensuite, on dira la femme sur la terre. Vous voulez qu'on parle dans cet ordre-là ?
Allez-y.
La femme dans le ciel, c'est très connu. C'est, je vis ainsi une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Donc cette femme lumineuse qui est enceinte, qui est dans le travail de l'enfantement, qui crie de douleur parce qu'un enfant va naître.
Vous dites que c'est une scène poignante. Hein, c'est, pas...
c'est une scène tout à fait magnifique, poignante. Alors c'est une vision, évidemment. Alors qui est cette femme ?
L'enfant est menacé de mort aussi. Il risque
l'enfant
d'être
est menacé
dévoré.
De mort. Le dragon est là. Un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes, etc. Et sa queue balayait le ciel. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Donc une scène à la fois lumineuse et terrifiante. Alors qui est cette femme ? Elle n'est pas nommée. Personne n'est nommé dans l'Apocalypse. On peut y voir plusieurs réalités. La première réalité qu'on peut voir, c'est Ève, c'est-à-dire la femme. Le privilège de la femme, c'est de mettre au monde. C'est un privilège qu'elle ne partage pas. L'homme ne met pas au monde.
Elle donne la vie.
Elle donne la vie, voilà. C'est son privilège. Mais elle sait en même temps que cette vie est menacée. C'est la crainte de toutes les mamans. Que va devenir son enfant ? il est tellement fragile, à la fois tellement fort et tellement fragile. Il est menacé, menacé par la bête, par la mort, mais aussi par le péché, par les perversions, etc. Donc la menace constante. Et cette femme peut être Ève. Elle peut être aussi l'Église. L'Église qui met au monde des nouveau-nés, qui eux-mêmes sont menacés, eux-mêmes sont sujets à toutes sortes de tentations, de menaces. Alors on y a vu aussi Marie, évidemment. Comment ne pas voir la Sainte Vierge Marie, qui met au monde l'enfant Jésus, qui est même menacé. Donc vous voyez, c'est une image qui a plusieurs sens, plusieurs interprétations. Et on peut la méditer de cette façon-là.
La deuxième femme, une femme alors, sur la terre, femme, avant qu'on parle des martyrs.
Alors elle, c'est une ville, c'est Babylone. Babylone, pour le contemporain de l'Apocalypse, c'est vraiment la ville maudite. Alors là aussi, vous allez voir comme une interprétation contemporaine peut être faite. C'est la ville du commerce, c'est la ville de l'argent. Par conséquent, de toutes les perversions que peuvent apporter l'argent et le commerce des uns au détriment des autres. Donc la Babylone est présentée comme une femme magnifique, splendide. Le visionnaire est subjugué par la beauté de cette femme.
Séduisante, oui.
Elle monte...
Une grande beauté revêtue de pourpre et d'écarlate. Elle étincelait d'or, de pierreries et de perles.
Ah oui, elle est extraordinaire. Alors, c'est marqué d'ailleurs, son nom sur son front est mystérieux, Babylone, la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. On rappelle que la prostitution, dans l'Écriture, c'est toujours ceux qui ont trahi Dieu pour aller servir d'autres dieux. Hein. Et Babylone, c'est la réussite humaine perverse, au détriment des autres. Une lecture contemporaine est très facile. Eh bien, cette femme-là n'est pas éternelle. Et à un moment, on va la voir détruite. Il suffit d'une heure pour détruire Babylone. Tout s'est effondré. Vous avez un chapitre extraordinaire, c'est le chapitre 18 de l'Apocalypse, dans lequel on voit la chute de Babylone. Babylone, ville rutilante, un peu comme les grands souks. Je ne sais pas si vous êtes allé à Constantinople, un truc comme ça. On voit des souks merveilleux. Et on décrit tout ça, tous ces bateaux, tout ce trafic, toutes ces senteurs, tous ces parfums, tous ces tissus. Tout ça va disparaître. En un instant, ça va disparaître. Donc c'est une scène tout à fait poignante. Et c'est présenté sous la forme d'une femme. Donc une femme dans le ciel et une femme Babylone sur la terre.
Parlons un petit peu des martyrs pour finir à la fin de cette émission. Ça peut paraître raide comme conclusion, mais en même temps c'est un livre qui dit des choses extrêmement profondes sur nos vies et qui dit une urgence. Vous avez ce mot, le livre de l'Apocalypse est un monument dressé à la gloire des martyrs.
Voilà. Très important en effet de dire un mot sur les martyrs. Le mot martyr, c'est la traduction du grec martyros. Or, martyros, ça veut dire d'abord témoin. C'est témoin. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin ? Très important de savoir que c'est un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu ou entendu quelque chose et qui le rapporte à quelqu'un qui ne l'a ni vu ni entendu. Autrement dit, le témoin, c'est un intermédiaire. J'ai vu cette chose, je te la rapporte. Pour que celui à qui on la rapporte croit que c'est vrai, il faut avoir confiance dans le témoin. Donc le témoin, c'est quelqu'un qui témoigne, c'est le cas de le dire.
Un témoin véridique, comme on dit parfois.
Qui est ?
Témoin véridique, parfois, on dit.
Voilà,
on dit
alors Jésus est appelé le vrai témoin. Le faux témoin, c'est quelqu'un qui veut tromper son auditeur. Le vrai témoin, c'est celui qui dit la vérité. Donc le témoin par excellence, c'est Jésus. Lui, il vient d'auprès du Père et il témoigne de ce qu'il a vu. Il témoigne en connaissance de cause.
Alors vous nous dites aussi que ça parle des martyrs au long de l'histoire de l'Église. Donc on imagine dans les premiers siècles, au premier siècle quand ce texte a été écrit, tout au long de l'histoire aussi, et peut-être aussi de chacun de nous, parce qu'il y a différentes formes de martyrs. Vous avez cette phrase un peu raide, hein, « Le message de l'Apocalypse est d'un cruel réalisme, il prend acte des situations des croyants, elle ne changera pas. » C'est-à-dire, être ouais. Croyant, si on l'est vraiment, on vit forcément une forme de martyr.
C'est-à-dire que le martyr, ce n'est qu'un témoin qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire que même si on tue le témoin, ça n'empêche pas la réalité d'exister. Si je témoigne d'une réalité et que vous me tuez, la réalité reste. Ça ne veut pas dire que je sois un saint parce que je suis martyr. Je peux être un saint si je meurs saintement. Mais le martyr, c'est celui qui, précisément, est allé jusqu'au bout de son témoignage. Et ce n'est pas du tout les fanatiques, parce qu'aujourd'hui, on voit des fanatiques qui s'appellent martyrs. Ce ne sont pas des martyrs, c'est des fanatiques qui pensent que parce qu'on va les tuer, ils ont raison. Mais non, ce n'est pas parce qu'on les tue qu'ils ont raison. Le témoin, c'est quelqu'un qui atteste d'une réalité, et on lui dit « tais-toi » ou « on te tue ». Il dit « mais écoutez, même si vous me tuez, la réalité ne sera pas changée ». Donc, c'est pour ça que le témoin est souvent un martyr. Alors, ça peut nous arriver.
Merci beaucoup Alain Quilici d'être venu ce matin au micro de Vivante Église pour nous parler de ce bel ouvrage qu'il faut prendre le temps de lire. Vous nous prenez par la main pour rentrer dans le livre de l'Apocalypse. Je le dis à votre place parce que le temps est compté. Vous me disiez hors antenne pendant la deuxième pause musicale, c'est un peu comme les fables de La Fontaine. Il faut un certain nombre de peut-être parfois d'attendus culturels pour rentrer dans toute la saveur des fables de La Fontaine. Et bien pour le livre de l'Apocalypse, il faudrait un certain nombre de notions bibliques. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre pour nous prendre par la main. Le ciel est tout proche. 15 clés pour comprendre le livre de l'Apocalypse, étonnante actualité de ce livre mystérieux et fort pelu, un livre donc paru aux éditions Arthège. Le ciel est tout proche. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.